Je ferai mon propre site. Peut-être que ça marchera, peut-être que non. Mais ce sera à moi.
Toute passion peut se monétiser sur le web. Ça, c'est la réalité économique dans laquelle on est actuellement et c'est plutôt cool.
Je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie, ce truc énorme, magnifique, passionnant que vous avez créé. N'oubliez pas qui a fait ça.
Je ne suis pas venu pour faire des sandwichs, je suis venu pour faire des affaires.
Fais-moi donner des cours de PDG.
Là, le fait d'avoir vraiment un programme en ligne, enfin quelque chose de passif, quelque chose qu'on a créé toute pièce, là, j'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et plus en tant que freelance. Et ça, c'est satisfaisant.
Je pourrais même gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre boulot.
Boum ! Dollar, dollar, bill, yeah !
Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Nouvel épisode, vous allez voir, qui découle directement d'un conseil que je vous donne régulièrement dans votre création de contenu. Je vous le dis souvent, quand quelque chose fonctionne, n'hésitez pas à soit le reposter ou soit le réitérer, le recréer d'une autre manière. Et il se trouve qu'en analysant les statistiques d'écoute de ce podcast, en regardant un petit peu quelles étaient les thématiques qui avaient le mieux fonctionné ces derniers mois, je me suis rendu compte qu'il y a un épisode de l'année dernière qui avait extrêmement bien fonctionné. C'est l'épisode 149 qui s'appelle tout simplement « Ce que je ferais si ». Donc, je vous avais demandé à l'époque sur Instagram de me donner des petites situations, business, etc. Et je vous dis, ben voilà, si j'étais dans cette problématique, voici ce que je ferais. Et comme l'épisode a très bien fonctionné, je me suis dit, eh ben, si on refaisait une seconde édition, eh ben écoutez, c'est parti. On y est. Je vous ai donc demandé il y a quelques semaines sur Instagram des nouvelles idées, de suggestions, qu'est-ce que je ferais si, et je vais y répondre dans cet épisode. Alors je remercie toutes les personnes qui m'ont proposé des situations, on va voir plein de sujets hyper intéressants, comme par exemple, qu'est-ce que je ferais si je n'y connaissais rien en business en ligne, qu'est-ce que je ferais si je gagnais 1 million d'euros, enfin plutôt si on me donnait 1 million d'euros, qu'est-ce que je ferais si je tombais malade, bref, plein de choses différentes, on va brasser plein de sujets différents, ça va être assez intéressant, donc écoutez, c'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je ferais si je décidais de lancer un blog lifestyle aujourd'hui en 2024? Alors, question super intéressante, étant donné que ça fait partie de mes objectifs de cette année. Voilà, vous le savez, je suis en train de refaire tout un gros process au niveau des différentes marques de ma société. Et j'ai également très très envie de retravailler mon personal branding. Ça fait méga longtemps que je le dis. Et travailler mon personal branding avec un positionnement un petit peu plus lifestyle. Certes, je vais sur les médias à mon nom, les médias Valentine. Je vais parler de business, ça fait partie de ma vie, je fais ça toute la journée. Mais j'ai également envie de parler d'autres choses qui, au final, composent ma vie. Et donc, ça fait partie de mes objectifs. Et donc, j'ai déjà un petit peu réfléchi à la question. Alors, globalement, si je devais maintenant lancer quelque chose de nouveau, un nouveau blog, qu'est-ce que je ferais? Tout d'abord, première chose à faire, c'est réfléchir à l'objectif de ce fameux blog. Donc ici, la personne nous dit un blog lifestyle. Ben, peut-être qu'en fait, la personne a juste envie d'écrire pour le plaisir et que ça va être vraiment un blog passion sur lequel on écrit de temps en temps et on se dit, on, à part soi-même écrire et avoir du plaisir dans l'écriture, dans le partage, on n'a pas d'autre objectif. Et ça peut être ok aussi, on a le droit de créer du contenu sur le web sans avoir derrière des objectifs de notoriété, de chiffre d'affaires, etc. Par contre, si derrière on pose des vrais objectifs, ben c'est important quand même de les connaître dès le début parce que ça va avoir une influence sur la manière dont on va gérer ce fameux bloc. Donc, de mon côté, je vais vraiment faire à chaque fois par rapport à ma situation personnelle entre guillemets, l'objectif de mon site slash blog Valentine, ce sera de développer mon personal branding, également de renvoyer vers les différents business. Donc si un jour par exemple je vous parle de réseaux sociaux dans la catégorie un petit peu plus entrepreneuriat, mais clairement je vais renvoyer vers mes différents cours en ligne qui vous expliquent comment utiliser Instagram, et j'ai également très envie de faire de l'affiliation, tout simplement partager des choses que j'aime, que ce soit des outils que j'utilise ou partager des idées de tenue que j'aime, etc., etc. Et donc, pour tout ça, j'ai très envie de faire de l'affiliation. En plus, pour avoir interviewé très, très récemment Romain Clos dans l'épisode où, justement, il nous parle d'affiliation sur le blog, ça m'a clairement donné envie de m'y mettre à fond. Ce n'est clairement pas tombé dans l'oreille d'une sourde tout ce qu'il a expliqué. Donc, voilà, moi, ce serait vraiment l'objectif, développer ma propre notoriété et également renvoyer vers les business et générer du revenu direct avec l'affiliation. Ce serait plus ou moins les gros objectifs. Alors ensuite, ce que je ferais, c'est de définir les catégories de mes articles. Ça, c'est toujours, je trouve, un truc super important. Un petit peu comme un podcast, pour moi, c'est important qu'il y ait différentes catégories de contenu. Donc, globalement, pour l'instant, je dois dire, moi, c'est pas encore clair à 2000% les catégories de mon futur blog. Mais ce serait, forcément, il y aurait une catégorie quand même business, entrepreneuriat. D'office, une catégorie mode. Quelque chose, à mon avis, au niveau de du sport / nourriture. Je suis loin d'être une professionnelle. Mais en même temps, ça fait partie de ma vie. J'adore tester de nouvelles choses à manger. Et je fais quand même pas mal de sport, donc pourquoi pas vous en parler. Et également tout ce qui est un petit peu plus culture, mais je pense qu'il faudrait trouver un autre nom de catégorie, parce que l'époque où j'allais régulièrement voir des expositions est un petit peu derrière moi, donc on va plutôt être culture, pop culture, série télé, etc. Donc il faudrait trouver un autre nom, mais clairement je suis toujours au taquet sur les nouveaux films, les nouvelles séries qui sortent, et là aussi j'ai envie tout simplement de partager mon avis, également un petit peu les livres, etc. que je lis, donc voilà, il y aurait quelque chose comme ça. Donc je finirai quand même quelques catégories pour avoir quand même une ligne éditoriale qui part pas dans tous les sens et un petit peu me structurer. Et de là, ce que je ferais, c'est que je définirais un planning de publication. C'est pas forcément obligatoire, encore moins si le but c'est d'avoir un blog plaisir où là on va plutôt écrire quand on a envie. Si on a envie de le développer, c'est quand même important, je trouve, moi, d'avoir un planning régulier au niveau de la publication. Donc voilà, je regarderai une fois par semaine, ça me semble très bien pour débuter, même si bien sûr, si on peut faire plus, c'est mieux. Et puis surtout, j'apprendrai des nouvelles compétences pour faire développer ce blog et attirer un maximum de visiteurs. Donc, pour moi, il y a trois choses que je devrais apprendre et que j'ai prévu d'apprendre dans les prochains mois. Tout d'abord, c'est me faire une méga mise à jour par rapport à Pinterest. À partir du moment où vous écrivez des articles sur un blog, Pinterest est un outil génial pour envoyer du trafic. Moi, je me souviens à l'époque où il y avait le blog Je vis de ma passion, j'avais énormément de trafic et donc de clients potentiels qui arrivaient sur le site via Pinterest. Tout ça a été mis en stand-by et c'est vraiment quelque chose que je compte réapprendre cette année, ne serait-ce que pour le média Valentine, mais également pour les différentes marques, étant donné que j'ai vraiment très très envie de me remettre à l'écriture d'articles, parce que je connais le pouvoir de Pinterest et je me dis, associer Pinterest avec ce qui est déjà fait sur les réseaux sociaux, c'est juste une excellente chose. Et puis bien sûr, apprendre le référencement, le SEO, là-dessus, je suis complètement larguée. Enfin, il y a encore une fois une très grosse mise à jour à refaire, ça fait des années que j'ai plus vraiment écrit d'articles. Et surtout, apprendre les techniques d'affiliation. Et ça, j'ai clairement pas envie de chercher à gauche, à droite, comment faire. Et surtout, j'ai envie de gagner du temps, voilà, j'ai pas envie de faire les erreurs de débutant. Et donc c'est pour ça que je sais très bien que dans les prochains mois, je compte rejoindre la formation de Romain sur l'affiliation, parce qu'il y a toute une partie référencement aussi, et ce sont des choses que je vais pouvoir utiliser pour mes différents business. Donc clairement, ça me semble un excellent investissement. Et concernant Pinterest, j'ai déjà en fait des formations Pinterest qui ont été mises à jour, donc je vais aller me replonger dedans. Donc voilà, pas mal de choses à apprendre, mais moi ça m'emballe assez. Donc voilà exactement ce que je ferais si je décidais de lancer un blog lifestyle. Pour le coup, vous êtes vraiment rentré dans les coulisses de ce qui va se passer les prochains mois pour moi, et j'ai trop hâte de vous sortir cela. Alors, deuxième situation, qu'est-ce que je ferais si je devais changer de positionnement et de cible ? Alors ça, c'est rigolo, c'est un sujet qui revient très souvent et c'est une question qu'on me pose souvent parce que c'est vrai que moi, j'hésite pas à faire des modifications dans le business, un petit peu à changer pas mal de choses quand j'ai envie. C'est vraiment, moi, pas quelque chose qui me pose problème. Loin de là, j'ai aucun blocage par rapport à ça. Au contraire, moi, j'en ai plutôt besoin parce que dès que quelque chose n'est plus 100% aligné, je suis incapable de bosser. Mais je sais que souvent, c'est pas aussi naturel pour certaines personnes, en tout cas, pas mal de blocages en se disant « Oh, on va penser que je suis une girouette, on va penser que je sais pas dans quelle direction je vais aller, etc. etc. » Sachez que non, on s'en fout et les trois quarts des gens, quand vous faites des changements dans votre business, même s'ils paraissent énormes, ils ne s'en rendent même pas compte. Nous sommes tous plutôt occupés à regarder notre petit nombril, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, globalement, cela dit, qu'est-ce que je ferais si je décidais de changer complètement de positionnement de cible ? Alors, étant donné que moi, j'ai quand même un positionnement, il y a Valentine, mais il y a également les différentes marques. En fait, si je devais changer plus ou moins, je pense que j'irais, enfin, changer plutôt complètement, j'irais clairement dans la création d'une nouvelle marque. Donc, je sais pas si, imaginons, je décidais de lancer une école en ligne uniquement pour les web designers, pour apprendre le métier de web designer, apprendre à créer des sites internet qui soient pas complètement dégueulasses et surtout qui soient bien opérationnels, expliquer comment trouver des clients, tac, 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 tac. Ben là, en fait, je ferais vraiment une marque à part entière avec son écosystème parce que c'est ce qui me fait kiffer. Si je faisais d'autres changements, imaginons je décide de redevenir freelance, terminer l'e-learning, terminer les différentes marques, etc. Je pense que là, encore une fois, je me prendrai pas la tête, juste je l'expliquerai à mon audience et à chaque fois que je fais des changements, c'est ce qui est fait. Il y a toujours un post sur Instagram qui est posté, il y a toujours un email qui est envoyé, etc. J'envoie toujours un mail différent également aux clients, étant donné que bah, il y a des informations qui sont pour eux importantes aussi. Et voilà, et puis je lancerai comme ça. Mais en général, moi, quand je décide de faire des changements, je crois que vous l'avez déjà vu ces dernières années, en général, je le fais assez vite et je me prends pas trop la tête parce qu'en fait, souvent, je suis tellement excitée par les nouveautés. En tout cas, je me projette déjà tellement bien dans ce renouveau que j'ai pas envie de passer des mois et des mois à le teaser, à le travailler. Je préfère un petit peu arracher le truc comme on arrache un pansement. Ok, c'est bon, on passe à autre chose et ensuite travailler et être directement dans ce nouveau mood. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas vraiment de stratégie claire et précise. Je dirais simplement, let's go, on y va. Et faut pas spécialement de stratégie claire et précise. Juste, let's go, on y va. Et surtout, nous ne sommes pas des multinationales qui existent depuis des années et des années et des années avec des milliers de consommateurs. Donc, on peut tout simplement se décider de se lâcher la grappe. Il n'y a pas besoin de faire un plan de com sur 6 mois. Donc, voilà pour cela. Alors, on va passer à un sujet qui vous intéresse toujours. Instagram et les followers. Alors, qu'est-ce que je ferais si je devais regagner 10 000 abonnés et communiquer sur une pratique quasi inconnue? Et ça, j'ai reçu plusieurs fois la question, voilà, qu'est-ce que je ferais si je n'arrivais pas à avoir de nouveaux followers, etc., etc. Alors, tout d'abord, je vous renvoie vers 2 épisodes. L'épisode 175, quel contenu poster pour avoir plus de followers sur Instagram, où vraiment, je vous donne tout le contenu qui fonctionne actuellement sur Insta. Cherchez pas à faire des choses plus compliquées, allez, simple, vraiment, et vous allez voir, c'est du contenu méga simple, donc let's go. Et également l'épisode 185, comment relancer un compte Instagram qui stagne. Et là, vous avez vraiment toutes les réponses à ces différentes questions. J'ai quand même envie d'ajouter quelque chose. Je remarque que c'est souvent oublié, mais pour gérer un réseau social, en tout cas pour le maîtriser et savoir ce qui doit être posté, alors c'est très bien d'écouter des épisodes de podcast, c'est très bien d'acheter des formations, etc., etc. Mais cependant, la chose la plus importante, c'est de passer du temps sur ce réseau et d'analyser ce qui fonctionne et comprendre par soi-même également comment ça fonctionne. C'est hyper important. Moi, c'est comme ça que j'arrive, quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, quand il y a des nouvelles tendances au niveau du contenu, que tout simplement, ben, j'arrive à m'y mettre. Il y a personne qui me dit « Valentine, à partir de maintenant, c'est ça qu'il faut faire sur Instagram ». C'est plutôt que je regarde beaucoup côté États-Unis, ce qui se fait, ce qui fonctionne. Je prends vraiment beaucoup de temps à analyser, c'est quelque chose que j'adore faire. J'essaye de comprendre pourquoi ça fonctionne, quelle est la machine un petit peu derrière, et ensuite, ben, je le mets à ma sauce, je teste, et au bout d'un moment,
je capte le truc et voilà. Et à ce moment-là, en fait, on n'a même plus besoin d'acheter des formations. Bon alors, si jamais vous n'avez pas envie de faire vous-même ce travail d'analyse et de recherche, il y a des super cours en ligne qui existent. Mais globalement, vraiment, passez du temps à regarder ce qui fonctionne et ça fonctionne pour absolument tout. Si vous voulez avoir un podcast qui cartonne, écoutez des podcasts qui cartonnent. Vous allez comprendre au bout d'un moment la machine, qu'est-ce qui fait qu'un épisode va être plus écouté. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, regardez des vidéos sur YouTube qui cartonnent. C'est hyper important d'avoir vraiment cet œil d'analyse constant pour pouvoir après soi-même créer également le contenu qui va fonctionner. Donc ça pour moi c'est hyper 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 important et vraiment regardez également ce qui fonctionne dans votre domaine. Et encore une fois, regardez ce qui se passe du côté des États-Unis. Vraiment, c'est hyper simple pour nous les francophones. Il suffit d'aller regarder là-bas ce qui fonctionne et après vous le faites à votre sauce. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites les choses simplement. Et je rappelle donc les deux épisodes de podcast à aller écouter. C'est le 175 et 185. Et là, vous avez vraiment toute la méthode pour relancer votre compte Insta et ensuite continuer de poster le contenu qui fonctionne. Donc voilà, voilà pour cela. Je vous mets les liens directs également dans la description du podcast. Comme ça, vous ne devez pas aller chercher, vous n'avez qu'à cliquer. Alors, suggestion suivante. Qu'est-ce que je ferais si je n'y connaissais absolument rien en tunnel de vente? Eh bien écoutez, c'est une très bonne question étant donné que je me suis déjà retrouvée dans cette situation. Je ne suis pas née en ayant des super pouvoirs magiques de tunnel de vente Evergreen. Il a bien fallu que je comprenne comment ça fonctionne et que je me forme. Alors pour le coup, je n'ai jamais acheté de formation sur tout ce qui est tunnel de vente Evergreen. J'ai tout appris par moi-même. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement appliqué les conseils que je viens vous donner pour comprendre comment ça fonctionne Instagram, etc. J'ai tout simplement passé énormément de temps à regarder ce qui se faisait chez les autres. Donc tout simplement s'inscrire à des masterclass Evergreen, aller regarder la stratégie derrière tout ça, analyser les emails de vente, etc. De là, un petit peu, faire ma propre popote, entre guillemets, créer mon propre tunnel, faire des tests, améliorer, être constamment en mode test and learn. Et c'est comme ça que je suis arrivée à créer ma propre méthodologie qui fonctionne, bien sûr, pour moi et qui fonctionne désormais pour les clients qui la suivent. Donc, globalement, quand on ne connaît rien sur certaines pratiques, alors bien sûr, tout ne peut pas s'apprendre en analysant, mais tout ce qui est au niveau business en ligne, réseaux sociaux, création de contenu, vente, etc. Vraiment, juste en analysant ce qui se fait, en regardant ce que les autres font, vous pouvez déjà comprendre un maximum de choses. Cela dit, encore une fois, si vous n'avez pas envie de tester par vous-même pendant des mois et des mois et des mois, vous avez des programmes de formation et j'en profite pour lancer une excellente nouvelle. Étant donné que vous avez été beaucoup à me demander d'avoir une formation sur tout ce qui est tunnel de vente Evergreen, mais qui ne soit pas spécialement dédiée uniquement à la vente de produits digitaux et de cours en ligne, mais également pour les personnes qui sont coachs, qui font du consulting, etc. Eh ben écoutez, ça arrive. Je n'ai pas encore le nom de la formation, mais elle fera partie de Je vis de ma passion. Ce sera vraiment dans le nouvel écosystème d'offres, parce que oui, quitte à aller sur le marché anglophone, relancer Je vis de ma passion, autant refaire toutes les offres, hein, sinon c'est pas drôle. Et vous avez l'appel à l'action vers cette formation. En tout cas vers la waiting list qui est également dans la description du podcast. Je n'ai pas encore le nom définitif de cette formation, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous inscrire sur la waiting list. Mais donc voilà, vraiment, même conseil, analysez ce qui se passe chez les autres, regardez ce qui fonctionne, n'hésitez pas. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, qu'est-ce que je ferais si on me donnait 1 million d'euros. Cette question, j'ai beaucoup aimé, elle m'a beaucoup fait rire. Et je dois dire que tout de suite, la réaction que j'ai eue en la lisant, je me suis dit, eh ben, je pense que je ne ferai rien avec, que je mettrai de côté. Et pour avoir un petit peu plus réfléchi à cette question par après, en préparant réellement l'épisode, eh ben, je suis toujours à la même réflexion. Je pense sincèrement que si quelqu'un me dit demain, on vient par exemple sonner à ma porte et on me dit « Valentine, tu as hérité d'une arrière-grand-tante et tu as 1 million d'euros qui arrive demain sur ton compte en banque », je pense sincèrement que je le mettrai tout simplement de côté en attendant de voir ce que je ferai d'intelligent avec, parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée. En fait, il faut savoir que moi, vraiment, le jour où je ferai un énorme, gros achat, ce sera pour ma future maison. Et je dois dire, alors c'est pas que j'ai des énormes goûts de luxe, mais la région où j'ai envie d'acheter est assez assez chère. Et malheureusement, avec 1 million d'euros, de 1, je ne peux pas acheter la maison avec piscine que je veux. Et surtout, ben, après, il faut quand même bien entretenir cette maison, la chauffer, etc. Et donc, il faut quand même s'assurer d'avoir des revenus qui... Eh ben, à côté, qui vont continuer et s'assurer qu'on peut continuer à rester dans sa maison après. C'est pas juste l'acheter, il faut la gérer après. Donc, voilà, pour l'instant, c'est pas vraiment le moment. Et surtout, voilà, donc je mettrai de côté. Je me dirais, voilà, ça servira un moment, mais je mettrai de côté. Et on pourrait se dire, ben, ok, pourquoi est-ce que tu te dis pas que tu t'autoriserais à faire un chouette voyage ou te faire un chouette cadeau, t'acheter un joli sac, etc. Effectivement, mais il faut savoir que, en fait, vous le savez, moi j'adore le business, j'adore faire du chiffre d'affaires, j'adore gagner de l'argent, et pouvoir le dépenser après dans des jolies choses, dans des expériences comme des voyages et tout. Mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est le travail que je fais pour générer cet argent. Et honnêtement, moi, recevoir comme ça une énorme... Alors, je dis pas que je serai pas contente, hein. Vous pouvez me faire des dons si vous voulez. Non, je rigole. Mais vraiment, moi, ce que j'aime, c'est travailler pour atteindre les objectifs financiers que je me fixe. J'apprécie autant le trajet que on dit voilà, il faut apprécier le match autant que la victoire. Ben c'est vraiment ça en fait. J'aime bien ce que je fais. Et donc, vraiment, moi, je préférerais faire 1 million grâce à mon business plutôt qu'on me le donne. Et je sais que quand ça arrivera, j'aurai à ce moment-là beaucoup plus de satisfaction à me payer un magnifique voyage, genre Maldives ou quoi, ou aller me faire un chouette cadeau, genre aller m'acheter un très beau sac à main. Donc voilà, j'aurai 1000 fois plus de satisfaction. Et je sais, imaginons, si demain vous me dites « Ok, je t'offre un voyage, tu peux partir où tu veux », je sais que je vais pas en profiter parce que je serai en train de réfléchir à toutes les choses que j'ai à faire au niveau business, pas parce que j'ai de la charge mentale, etc., etc., mais plutôt parce qu'en fait, j'ai plutôt envie de bosser sur mes projets actuellement plutôt que d'être dans la période où je profite de ce qui a été créé. Donc voilà, si on me donnait 1 million d'euros demain, eh ben je pense que tout simplement, je le mettrais de côté. Je continuerai de bosser sur mes projets et quand je serai arrivé à mes objectifs en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc., au niveau du business que j'ai pour 2024, ben là, peut-être qu'on ira piocher dans la cagnotte du 1 million d'euros pour se faire un petit peu plus plaisir. Mais voilà, en attendant, focus business. Alors, question hyper intéressante. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais plus d'idée de formation à créer? Alors, je dois dire que moi, c'est pas vraiment une problématique qui m'arrive. J'ai souvent tendance à avoir trop d'idées et avoir trop d'idées, c'est une très bonne chose parce qu'il n'y a plus qu'à faire le tri. Mais globalement, imaginons, qu'est-ce que je ferais? Et là, je vais tout simplement vous donner le conseil que je donne à toute personne qui a envie de créer des nouvelles offres, que ce soit des formations en ligne ou même que ce soit des offres en coaching, en consulting, même des offres de freelance, etc. Tout simplement, en fait, la bonne idée, c'est quoi? C'est la chose dont a besoin votre audience. Donc moi, qu'est-ce que je ferais si c'était la panne d'idées au niveau même du contenu, etc. J'enverrais un mail à ma liste. Je ferais également une boîte à questions en story sur Instagram et je demanderais tout simplement aux gens, ok, c'est quoi votre objectif principal dans les 3 à 6 prochains mois? Et qu'est-ce qui vous empêche de le réaliser? Ça, c'est 2 questions super puissantes parce qu'elles permettent tout d'abord d'avoir, de connaître vraiment quels sont les besoins de l'audience. Donc, c'est l'objectif. Ok, qu'est-ce que tu veux avoir réalisé dans 3 mois, dans 6 mois? Moi, typiquement, je sais que quand je pose ce genre de questions, c'est toujours plus de clients, plus d'argent, plus de followers, tac, 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 tac. Et ensuite, qu'est-ce qui t'empêche de le réaliser? Ben, c'est là, en fait, que vous allez voir les vrais problèmes de votre audience. Par exemple, j'ai pas le temps, je sais pas comment lancer, tac, 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 tac. Et c'est là que vous allez, en fait, trouver les idées de contenu, que ce soit du contenu gratuit ou du contenu payant, que vous pouvez créer. Et ça, c'est 2 petites questions. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez poser régulièrement à votre audience tous les 3 mois, 6 mois. Vous pouvez faire comme ça des petites boîtes à questions dans les stories parce que ça vous donne plein d'infos, ça donne plein d'idées. Donc voilà, au final, un problème que vous pouvez régler assez facilement. En tout cas, je l'espère. Alors, qu'est-ce que je ferais si je n'avais aucune contrainte de temps? Très, très bonne question. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu la question, je me suis dit, En fait, je pense tout simplement que je ferai plus de business et plus de contenu sur le web. Bon, ben voilà, après, ça fait vraiment écho à mes envies du moment. Voilà, j'ai envie de taffer en ce moment, j'ai envie de développer le business. Et donc, forcément, si vous me donnez plus de temps, je vais l'accorder au business. Je vais pas vous dire, je fais plus de sport, je vais pas vous dire, je regarde plus de séries sur Netflix ou je dors plus, parce que je dors déjà assez. Donc, voilà, c'est vraiment ça qui me viendrait en tête. Il se peut très certainement que si vous me reposez la question dans un an, que la réponse soit complètement différente. Mais donc voilà, actuellement, si je n'avais aucune contrainte de temps, j'en profiterais pour bosser encore plus. Donc voilà pour cela. Alors, question qui m'a pas mal challengée, étant donné que c'est bien loin de ma réalité et de mes envies. Qu'est-ce que je ferais si je voulais développer ma clientèle locale? Alors, pour le coup, moi, c'est pas spécialement quelque chose que j'ai envie de faire, parce que mon business est 100% en ligne, et en fait, je n'ai aucun intérêt à me développer, par exemple, uniquement sur Bruxelles. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, tout est en ligne, donc je peux toucher un public international partout dans le monde. Donc, au lieu de me dire, je vais répondre à cette question en imaginant que, voilà, je suis la Valentine d'aujourd'hui avec son business actuel, j'ai plutôt revenir à, ok, si j'étais freelance, par exemple, si j'étais photographe. Donc là, pour le coup, trouver des clients plutôt au niveau local, ça fait du sens. Par exemple, si j'avais un studio photo et que je voulais que des personnes, des familles, etc., viennent faire leurs portraits dans mon studio, qu'est-ce que je ferais? Je pense qu'il y a pas mal de choses au final qu'on peut faire au niveau local. Ce qui m'est venu directement en tête, c'est quatre propositions. Tout d'abord, je n'hésiterai pas à regarder un petit peu ce qu'il y a dans ma région au niveau networking. Est-ce qu'il n'y a pas des réseaux d'entrepreneurs? Est-ce qu'il n'y a pas des événements qui sont organisés, etc.? Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi quand je me suis lancée. Il y a déjà 8 ans, quand j'étais freelance, j'allais à des événements qui étaient organisés par des réseaux de networking, des conférences, etc., etc. Parce qu'après, il y a souvent, après les conférences, il y a toujours un petit moment drink. Et vous pouvez aller papoter avec d'autres personnes et expliquer ce que vous faites. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je déteste faire, mais ça peut être très sympa. Et au moins, l'avantage, c'est que vous rencontrez des personnes qui sont dans votre région, et c'est à ce moment-là que le bouche à oreille peut se faire via, etc. Si jamais vous n'avez pas envie d'aller networker dans des événements et raconter votre vie pendant que vous buvez une petite coupette de champagne, ce que vous pouvez faire, c'est aller travailler dans un coworking. Alors ça, c'est méga puissant. Parce qu'en fait, vous allez d'office rencontrer des personnes de votre région. En plus, vous allez rencontrer des personnes qui sont potentiellement à leur compte. Donc, c'est toujours sympa. Et au final, quand on travaille dans un coworking, ça arrive souvent qu'on finisse par sympathiser. On lunch ensemble à midi. Parfois, on va boire un petit verre, etc. Donc, au final, on a des liens qui se créent. Et au final, tout ça fait qu'on se crée son réseau qui peut aider à développer sa clientèle en local. Moi, pour la petite anecdote, j'avais même eu un contrat en community management dans le coworking où je bossais à l'époque. Au final, ils m'avaient carrément demandé de m'occuper de leur réseau. Donc, pour le coup, très bon retour sur investissement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais très vite, j'avais compris que j'allais plus ou moins arrêter tout ce qui est freelancing. Mais je sais très bien que même dans le coworking où j'étais, j'aurais pu trouver plein de clients. Et moi-même, l'expert comptable qui s'occupe aujourd'hui de ma société était dans le même coworking que moi. Et on est plusieurs à avoir décidé de bosser avec lui. Donc voilà, coworking, on peut trouver directement des clients quand on est indépendant, qui s'adresse à d'autres indépendants. Mais également, ça permet de se faire du réseau qui va également pouvoir nous aider niveau bouche à oreille au niveau local. Alors, troisième chose que je ferais, et là, rien qu'en le disant, je rigole parce qu'en fait, pendant des années, j'ai dit « Oui, c'est terminé l'époque des cartes de visite, des flyers qu'on va déposer dans les boîtes aux lettres, etc., etc. Tout se fait sur Internet maintenant. » Eh bien, en fait, pour le local, j'avais tort. Parce que clairement, et là je vais me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, imaginons si j'étais esthéticienne et que j'avais un cabinet d'esthétique, là clairement on est au niveau local et ça ne sert à rien d'avoir 100 000 followers sur Instagram parce qu'on n'aura jamais 100 000 followers de notre ville. Et à moins d'avoir vraiment une renommée internationale, en général quand on va faire ses ongles par exemple, on va au plus proche, on va pas faire 60 km ou plus pour aller se faire un soin. Enfin, voilà. En général, on cherche au niveau très, très local. Et donc, globalement, si j'avais vraiment un commerce hyper local, là, j'avais en tête le salon d'esthétique, eh ben, en fait, j'hésiterais pas à faire des flyers. J'hésiterais pas à aller les mettre dans les boîtes aux lettres. Franchement, dans ma rue, dans le quartier, etc. J'hésiterais pas à aller voir les autres commerçants. Voilà. Si, par exemple, il y a une boulangerie dans le quartier, j'hésiterais pas à aller demander au boulanger, oui, est-ce que je peux mettre mes flyers? Si tu veux, donne les tiens et je donnerai les tiens à mes clients. Voilà, ça fonctionne encore très bien au niveau local, ce genre de choses. Et clairement, au lieu de me développer sur les réseaux, si je savais que je voulais vraiment rester en local, faire un travail vraiment où on est en local, on est 100% avec le client, si j'avais pas en tête de développer par exemple des cours en ligne pour apprendre à développer son propre salon d'esthétique, clairement je ferais des choses comme ça très simples, flyers dans la boîte aux lettres et c'est tout. Alors, quatrième stratégie qui pourrait être intéressante en local, c'est de faire du marketing d'influence. Là, je reviens sur mon idée, je suis esthéticienne, j'ai un salon d'esthétique. Ben, en fait, je regarderais si dans ma région, il n'y a pas des influenceuses, des blogueuses, youtubeuses, etc. Dans le domaine beauté, lifestyle, pour les contacter, pour voir si on peut pas faire une collaboration. Alors certes, cette créatrice de contenu a certainement une audience qui la suit d'un petit peu partout en France, etc. Mais je n'hésiterai pas à contacter quelqu'un de ma région en me disant qu'elle est certainement suivie par des personnes de la région et ça peut amener de la visibilité et ça peut faire venir du coup des clients qui sont directement intéressés par ce domaine-là. Donc voilà ce que je ferais. Donc je reprends les quatre points pour développer sa clientèle en local. Tout d'abord, tout ce qui est réseau de networking, etc., aller à des événements, tac, tac, tac. Ne pas hésiter à aller travailler dans un coworking, hein, pas forcément full-time, mais ne serait-ce qu'une journée par semaine, voilà, pour voir un peu de monde, etc., etc. Ensuite, si on a un magasin physique, un commerce physique, pas hésiter à aller balancer des flyers dans les boîtes aux lettres, également chez les autres commerçants. Ça paraît bête, mais ça fonctionne toujours. Et en quatrième, faire du marketing d'influence. Donc, voilà pour cela. Bon, bah, j'étais quand même assez inspiré pour une problématique dont je ne parle jamais au final. Alors, question hyper, hyper intéressante et qui, je pense, malheureusement, va parler à beaucoup de personnes. Qu'est-ce que je ferais si j'étais dans l'urgence financière pour mon business? Et oui, ça arrive parfois que la trésor soit vide et qu'on se retrouve à être dans l'urgence. Alors, l'avantage dans mon cas, quand on a des produits digitaux et des cours en ligne, c'est que si on a besoin de faire du cash rapide, c'est très simple. On fait une promo sur 2-3 jours, on balance un code promo à sa liste email et c'est fait. C'est bon. En général, il y a des ventes qui se font. Ça, c'est vraiment pour moi un des avantages d'avoir comme ça des produits digitaux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, entre guillemets, pour les petites coulisses, j'avais fait une promo fin janvier pour tous les cours self-made. Alors, c'est pas qu'il y avait une urgence financière au niveau business, mais en fait, j'avais pas atteint mon objectif vraiment que je m'étais mis pour le mois de janvier au niveau du chiffre d'affaires. Le mois avait été très correct, mais j'étais là, ouais, c'est dommage, moi, je suis à ça de mon objectif réel pour le mois de janvier. Et donc, du coup, j'ai fait les 3 derniers jours de janvier, j'ai fait une action. Voilà, j'ai créé un code promo, j'ai balancé le code promo à ma liste email. Je crois que j'ai même pas communiqué sur Instagram à ce sujet. Et paf, le soir même, j'avais atteint mon objectif. Et au final, j'ai fait même plus de chiffre d'affaires que ce que j'aurais espéré. Donc voilà, ça c'est l'avantage quand on a des produits digitaux, des cours en ligne. On peut toujours faire des petites actions, c'est toujours assez sympa. Cela dit, revenons vraiment plutôt dans l'optique de la question. C'est l'urgence financière. Clairement, il n'y a pas de clients, il y a plein de missions qui sont prévues et il me reste 5€ sur mon compte. Qu'est-ce que je fais? Eh ben là, tout simplement, au lieu de commencer à réfléchir à des stratégies compliquées, je pense que ce que je ferais, c'est que j'enverrais un mail à tous mes anciens clients, j'enverrai un mail à ma liste, je n'hésiterai pas également à décrocher mon téléphone pour appeler des anciens clients et tout simplement pour dire coucou, je suis disponible, salut, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour faire ça, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour faire ceci, pour faire cela, etc. Tout simplement, j'enverrai un email et je dirai voilà, tu veux bosser avec moi, je suis là, voici ce que je peux faire, j'irai vraiment cash, je commencerai pas à imaginer des trucs sur plusieurs semaines parce que clairement, si le but limite c'est de gagner de l'argent dès demain ou en tout cas d'avoir des rendez-vous avec des prospects dès demain, ben je ferai ça. J'enverrai un mail en disant « Coucou, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? N'hésite pas à me répondre. » Et voilà. Clairement, c'est ça que je ferai. En parlant, je suis pas méga satisfaite par ces réponses, donc je réfléchis à si j'ai pas autre chose de plus intelligent à vous répondre. Mais vraiment, de toute façon, contactez ces anciens clients si vous avez besoin de vendre quelque chose. Vous vendrez toujours plus facilement à des anciens clients qui ont été satisfaits, normalement. Et c'est comme ça que vous pourrez plus facilement signer des nouvelles collaborations, etc. Et ça, c'est pareil également. Moi, je le vois dans mon business model de produits digitaux et de cours en ligne. Quand je lance quelque chose de nouveau, c'est toujours les personnes qui ont déjà acheté qui sont les plus enclins à acheter. Pourquoi ? Parce qu'elles savent qu'il y a de la qualité derrière. Donc, voilà ce que je ferai. J'hésiterai pas à être... Je pense que dans certains cas, l'honnêteté également peut être une bonne chose. Et j'hésiterai pas, après, faut être à l'aise avec ça, mais j'hésiterai pas à même faire des stories sur Instagram en disant, écoutez, là, c'est un petit peu compliqué. Clairement, le planning, je vous l'avoue, est un petit peu vide. Si vous hésitez à bosser avec moi, ben, c'est le moment, c'est l'instant. Et voilà, on peut être honnête aussi, pas en mode pitié, j'ai besoin de clients, mais je crois qu'on a le droit de dire, ben voilà, ces derniers mois, j'ai bossé plus sur mes clients, j'ai moins bossé sur ma com et je me retrouve à avoir un planning qui est assez light. Vous pouvez le dire aussi, hein, sans que ce soit de manière dramatique, mais je crois que parfois l'honnêteté, c'est bien aussi. Donc voilà ce que je ferais si j'étais dans cette urgence financière. Alors, il nous reste 3 situations. La prochaine, qu'est-ce que je ferais si je n'arrivais plus à me motiver au quotidien ? Bon, alors ça, je pense que ça peut parler à tout le monde, parce que tout le monde a des baisses de motivation, parfois, ça arrive. Le plus souvent, je pense que ça vient plutôt d'un coup de fatigue. Moi, parfois, quand je vois comme ça que j'ai un petit peu un manque de motivation, en général, c'est quand j'ai un petit peu tiré sur la corde. Et là, en fait, ça sert à rien de pousser, juste un petit peu de repos pendant quelques jours, s'autoriser à bosser un peu moins, on se repose, on s'aère l'esprit, on essaye de faire autre chose qu'être sur son ordinateur ou sur son smartphone. Et en général, la motivation va revenir naturellement au bout de quelques jours parce qu'en fait, on s'est juste autorisé à déconnecter. Si ça dure un petit peu plus longtemps, et moi, ça m'arrive parfois, c'est important de savoir en fait pourquoi est-ce qu'on n'est plus motivé, pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie de faire les choses. Et là, moi, à titre purement personnel, en général, c'est quand je suis plus réellement alignée avec ce que je fais, en tout cas que je ne gère pas. En fait, que mon business n'est plus le business que j'ai envie d'avoir à 2000%. Et donc, je n'hésite pas à faire un travail de réalignement. J'hésite pas, en fait, à soit supprimer des choses, ajouter des choses, faire des modifications, etc. Voilà, moi, par exemple, ces derniers mois, je m'étais rendu compte que j'avais besoin de quelque chose de renouveau. Bah, du coup, j'ai sur le marché anglo-saxon, etc. J'en profite également pour faire un travail de restructure au niveau des offres. Bon, moi, c'est quelque chose que j'adore faire, hein, repenser le business toutes les lunes. Je pourrais faire ça tous les mois, j'adore ça, mais clairement parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est constamment 100% aligné avec moi, donc certes ça demande du travail, mais après ça permet d'être motivé au quotidien, donc voilà ce que je ferais. Mais en général, hein, le manque de motivation quand on est à son compte, c'est qu'en général on n'est pas en train de développer exactement la chose qui nous fait vibrer à 1000%, en général c'est quand on bosse sur des actions, des stratégies qui ne nous plaisent pas réellement, et donc faut pas hésiter à se faire plaisir et à vraiment créer le business idéal qu'on a envie d'avoir. Tout de suite, la motivation revient beaucoup plus rapidement. Alors, question encore une fois très intéressante. Qu'est-ce que je ferais si je ratais mon premier lancement d'offre signature ? Alors, déjà, moi, je vous invite, quand on parle de rater, je vous invite à vous demander, ça veut dire quoi, rater ? Pourquoi ? Parce qu'on a tous des objectifs différents et parfois, à résultats identiques, pour certaines personnes, ce sera une réussite, pour certaines personnes, ce sera un échec. Donc, si par exemple, on a fait moins de ventes que prévu, voilà, on a lancé, on a fait quelques ventes, mais on considère que c'est raté parce qu'on n'a pas fait assez de ventes. Bon, déjà, moi, j'ai envie de dire, il y a eu des ventes. Donc, au final, le produit est validé. C'est qu'il y a un besoin, il y a des gens qui l'ont acheté. Pour moi, ça, c'est le test ultime. Est-ce qu'il y a des gens qui sortent leur carte de crédit ou pas quand vous lancez quelque chose? Et à ce moment-là, pour moi, on peut pas vraiment parler d'échec. Par contre, peut-être qu'on considère que c'est raté parce qu'on n'a peut-être pas fait assez de ventes par rapport à ce qu'on espérait, ou on n'a pas fait assez de chiffre d'affaires, etc. Dans ce cas, ce serait hyper intéressant de regarder au niveau des taux de conversion. Si on a fait un lancement avec un webinar, est-ce qu'on avait au final beaucoup de personnes inscrites à ce webinar ? Si on se rend compte qu'on avait beaucoup d'inscrits mais qu'on n'a pas fait beaucoup de ventes, mais faut revoir la stratégie du webinar. Si au contraire on n'avait pas grand monde d'inscrits au webinar par rapport à notre audience, peut-être revoir le sujet du webinar pour une prochaine fois. Si au contraire on se rend compte que tout simplement on a fait peu de ventes entre guillemets parce qu'on a une petite audience, ben se dire ok c'est très bien, c'est un début et on travaille sur le développement de son audience pour faire plus de ventes au fur et à mesure. Et surtout, n'hésitez pas, demandez à votre audience pourquoi elle n'a pas acheté, demandez à votre liste email pourquoi elle n'a pas acheté, vous allez recevoir des feedbacks super intéressants. Mais donc, comme vous le voyez, pour moi, un premier lancement où on a quand même fait quelques ventes, pour moi, c'est pas raté. C'est un premier apprentissage, c'est un premier test, c'est un premier lancement, on récolte plein de données hyper intéressantes et tout ça va nous permettre de développer par la suite. Par contre, si on n'a pas fait de vente du tout. Alors, si on n'a pas fait de vente et qu'on était en pré-vente, vous le savez, quand vous voulez lancer quelque chose... alors ici, la personne me parle d'offre signature, pas réellement de cours en ligne. Donc, une offre signature, ça peut être une offre de coaching où clairement, on n'a pas encore commencé vraiment à créer le programme. On l'a certainement fait une page de vente, etc. Se dire, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave de lancer des choses qui ne font pas de vente. Ça prouve juste que votre idée n'est pas bonne, entre guillemets. En tout cas, que c'est pas le moment. Eh ben, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et on demande aux gens, de quoi as-tu besoin? Et là, encore une fois, vous pouvez envoyer un mail à votre liste en disant, ben voilà, je vous ai proposé offre A. Visiblement, ça ne vous intéresse pas. C'est pas grave. De quoi avez-vous besoin en ce moment? Et là, vous allez avoir la réponse. Moi, ça m'est arrivé hein, plusieurs fois de lancer des choses qui n'ont absolument pas eu de réponse de la part de mon audience, pas d'intérêt, de lancer des waiting lists où personne ne s'inscrivait, de lancer même des offres où personne ne s'inscrivait. Alors moi, je fais toujours en pré-vente hein, pour pas commencer à créer des cours en ligne de A à Z sans avoir de clients potentiels. Mais globalement, pour moi, je me dis, c'est pas grave. Ok, j'ai testé, j'ai passé du temps dessus, certes, mais ça me permet, encore une fois, de récolter des données qui vont permettre de créer quelque chose d'autre par après. Alors, si on a vraiment passé beaucoup de temps, par exemple, on voulait créer un produit digital et on n'a pas suivi mon conseil numéro 1 qui est de toujours pré-vendre, on s'est dit, non, je crée d'abord et puis je le lancerai. Dans ces cas-là, eh ben écoutez... se dire que c'est pas grave, au moins on a appris plein de choses, on a appris à peut-être créer des slides, on a appris à mettre en ligne tout ça, on a appris à faire des pages de vente et se dire bon ben voilà, encore une fois, il n'y a pas eu de résultat, c'est que clairement le sujet n'était pas le bon et demander à son audience pourquoi ils n'ont pas acheté et utiliser toutes ces données pour enfin créer quelque chose que l'audience aura envie d'acheter. Donc, vraiment, faut dédramatiser quand quelque chose ne fonctionne pas dans le business. Je sais que c'est pas évident. Je pense que c'est quelque chose également qui, à force, certes, se travaille au niveau mindset, mais c'est quelque chose qui vient honnêtement avec les années aussi d'expérience. Moi, ça m'est arrivé hein, d'avoir des choses qui fonctionnent pas et d'être super, super, super mal. Donc maintenant, je le dis ça, c'est en ayant quelques années de lancement, de réussite et d'échec au compteur. Et donc forcément, on regarde tout ça avec un peu plus de recul. Et je vais même vous dire aujourd'hui, vous allez me prendre pour une folle, mais en fait, moi, ça m'amuse quand les choses ne fonctionnent pas. Alors, attention, ne fonctionne pas, il faut voir également l'état de la trésorerie du business. C'est clair que si c'est un petit peu compliqué financièrement, on lance un truc qui fonctionne pas, c'est moins drôle. Là, moi, j'ai la chance d'avoir une trésorerie qui voilà me permet de voir sur du long terme. Si j'ai un truc qui fonctionne pas et qu'il faut le réajuster, en fait, moi, j'y vois quelque chose d'assez fun au niveau intellectuel derrière tout ça, d'aller analyser la stratégie, d'aller comprendre. Et faut vraiment, je pense, dès le début, se placer dans cette optique-là et se dire... Ok, ça n'a pas fonctionné. Vraiment se détacher personnellement du résultat, ne pas se dire qu'on est nul, qu'on n'a rien compris, mais vraiment aller comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que c'est là que vous allez comprendre ce qui va fonctionner et c'est là que vous allez avoir des super résultats. Donc vraiment, également, se détacher personnellement du résultat. Je comprends que ce soit pas évident à faire quand c'est le début, quand c'est la première chose qu'on lance, parce qu'on y met tellement d'efforts personnels que forcément, c'est normal d'être déçu. Hein. S'il y a besoin de quelques jours de déconnecter pour un petit peu processer le truc, c'est totalement ok, mais vraiment essayer, je pense, se mettre assez rapidement, se détacher et se mettre vraiment dans cette optique, ok, c'est pas grave, je me détache des résultats, j'essaye d'analyser, de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné Ça permet vraiment au final de se détacher personnellement du résultat et ça donne encore une fois plein de données hyper, hyper importantes. Donc voilà, et vraiment bien se dire à chaque fois que tout le monde, il n'y a aucun entrepreneur qui a lancé des choses et il y a eu 100% de réussite. Ça, c'est clair et net. Arrêtez de le croire, parce qu'à chaque fois que je dis ça, on me dit « Oui, mais machin, nanan !» Non, non, machin, tu sais pas ce qu'elle a fait les années avant et surtout, il y a des choses forcément qui n'ont pas fonctionné parce qu'on ne parle pas des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, sachez que tout le monde a eu des flops dans son business. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Alors, on arrive à la dernière question, la 13e, qui en plus, qui n'est pas sur un sujet rigolo. J'espère que ça ne va pas nous porter la poisse tout ça. Mais c'est un sujet qui est important. Qu'est-ce que je ferais si je tombais gravement malade? Et effectivement, c'est un sujet qui est important. On n'en parle pas assez, je trouve, dans le business, parce qu'effectivement, on a beau tout prévoir. Malheureusement, il y a des maladies qui peuvent tomber un petit peu sur tout le monde. Et moi, c'est un sujet qui m'a pas mal travaillé ces derniers mois, ayant eu mon meilleur ami qui est tombé malade, qui est décédé d'un cancer, etc. Inutile de dire que forcément, je me suis déjà demandé, ok, si ça m'arrivait aussi, qu'est-ce que je ferais, comment je réagirais à titre personnel et qu'est-ce que je ferais de mon business aussi. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai pris toutes les assurances possibles au niveau maladie. C'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai tout mis au propre à ce niveau-là quand je suis passée en société. Donc, c'est ma société qui paye cela pour moi. Donc, tous les mois, je paye une assurance maladie, comme j'ai, par exemple, une assurance juridique. Enfin, voilà. Donc, tout ça a été fait avec un courtier en assurance spécialisé pour les petites sociétés comme la mienne. Et donc, là-dessus, je suis couverte. Si jamais il m'arrive un couac au niveau de la maladie, j'ai mon assurance qui continuera de me payer mon salaire. Donc ça, c'est déjà une première sécurité que j'ai. Je sais que si vraiment je dois tout mettre off pour des raisons médicales, j'ai également une assurance hospitalisation, enfin voilà, je peux continuer à remplir mon frigo et payer mes factures d'électricité à titre personnel. Parce que c'est bien beau tout ça, mais bien sûr, moi, mon business me coûte de l'argent tous les mois, je dois payer des outils. Certes, il y a de la trésor, mais si on est sur de long terme, il faut quand même s'assurer qu'il y a également de l'argent qui rentre dans la trésor. Et ça, je vais expliquer tout de suite le plan qui est mis en place, qui a été mis en place de manière assez naturelle pour le coup. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais fait, mais bien avant, quand je suis passée en société en mars 2021, j'avais tout mis au clair à ce niveau-là pour être certaine et avoir cette sécurité de « Ok, j'ai quand même de l'argent tous les mois qui tombe sur mon compte en banque personnel pour tout simplement mes frais personnels, payer le crédit de l'appartement, etc. etc. » Donc, voilà pour cela. Et vraiment, je vous invite à le faire, à aller vous renseigner, voir un petit peu quelles sont les choses que vous pouvez prendre en tant qu'assurance. Je trouve que ça permet de mettre de côté pas mal de charges mentales. Et donc, qu'est-ce que je ferais globalement si effectivement j'ai quelque chose qui m'arrive, je touche du bois en même temps. Je pense que de toute façon, si on tombe gravement malade, c'est la santé en premier. C'est peut-être facile à dire et je pense que j'ai en toute transparence plus de facilité à le dire que certaines personnes parce que je sais que si je tombe malade, j'ai pas à m'inquiéter financièrement parce que je sais que j'ai ma famille qui peut m'aider. Et clairement, je sais que c'est un énorme avantage à ce niveau-là. Je sais que voilà, il n'y aura pas de souci. Et donc, clairement, je peux me permettre de dire, c'est la santé qui passera en premier. Alors, malgré ce support que je pourrais avoir, j'ai pas cependant envie, s'il m'arrive un couac, que tout le business que j'ai construit ces dernières années finisse par faire faillite parce que je suis off. Ça, c'est hors de question. Et donc, vous le savez, j'ai construit un business qui a été créé, imaginé pour pouvoir, travailler le moins possible tout en gagnant le plus. Voilà, un petit peu la business de la paresseuse. Mais du coup, ça sert également quand on est malade. Et donc, concrètement, la chose qui me manque, moi, pour l'instant, au niveau business, c'est de réactiver le référencement parce que clairement, pour l'instant, moi, qu'est-ce qui me fait gagner ma vie? C'est le contenu que je poste sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un travail quotidien. Donc, même quand je suis à l'étranger, en vacances ou quoi, je prépare tout à l'avance. C'est 10 minutes par jour de checker que le Reels qui a été programmé a bien été programmé. Donc, tout ça n'est pas très compliqué. Mais effectivement, si je suis gravement malade et que je ne peux pas du tout bosser, il faut penser à d'autres solutions. C'est notamment... Alors, c'est pas au cas où je tombe malade, mais en tout cas, ça fait partie partie des objectifs de 2024, c'est de réactiver la création de contenu en format article de blog. Donc, on revient à ce que je disais au début de l'épisode, pour tout simplement pouvoir avoir des articles qui sont référencés sur Google, qui peuvent tourner sur Pinterest, et avoir des articles qui, bien sûr, mèneraient vers mes tunnels de vente, et donc qui me permettraient de générer des revenus vraiment de manière passive. Le but premier de tout ça, ben, c'est en fait de diversifier diversifier les sources d'acquisition, parce que là, mon business repose uniquement sur Instagram, et de un, j'ai envie de scaler, et de deux, je ne veux pas avoir uniquement une source d'acquisition. Donc de toute façon, ça c'est prévu, mais effectivement, si je tombe malade et que je peux plus du tout bosser, ben, mon contenu sur Instagram, au bout d'un temps, il va plus vraiment m'amener des visiteurs et des clients. Par contre, le contenu article de blog, lui, pourra continuer de le faire. Et si vraiment, maintenant, non, parce que tout ça n'est pas mis en place, ça j'y pensais tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, ben en fait je me disais tout simplement je lancerai de la pub. En fait, je pense que si j'étais dans une urgence, comme ça, en mode, ok, je peux pas bosser pendant 6 mois, mais il faut que de l'argent continue de tourner, continue de rentrer, eh ben, en fait, je contacterais très rapidement un prestataire de publicité qui est spécialisé dans mon domaine, et je lui dirais, ok, il faut que tu gères la pub pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, et que tu renvoies vers mes offres. Et comme ça, ça peut continuer de tourner. Et en fait, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont déjà eu ça. Je pense notamment ma première mentor, Mélissa Griffin, qui maintenant a mis tout son business off. Enfin, elle a pris sa retraite. Elle fait complètement autre chose au Portugal désormais. Mais elle avait son business en ligne. Elle a fait un gros burn-out. Elle a été off pendant plus d'un an. Et ben, elle a pu être complètement off. Pourquoi ? Parce qu'elle avait tous ses articles sur Pinterest qui renvoyaient vers ses différents cours en ligne. Et ses pubs ont continué de tourner. Donc, voilà, ce serait ça vraiment le plan numéro 1. Ensuite, j'hésiterai pas, moi, alors ça dépend un petit peu au cas par cas, de toute façon j'expliquerai aux clients, je pense que j'enverrai un petit message à tous les élèves de mes cours en ligne en disant, bon ben voilà, il se passe ça, bien sûr t'as toujours accès au contenu, mais voilà, les prochaines semaines / mois, je vais être un petit peu moins au taquet sur les emails, j'y répondrai un petit peu moins vite dans l'espace communauté, je passerai peut-être pas tous les jours dedans, peut-être que parfois je serai au taquet, il y a peut-être des lives qui vont devoir être annulés ou reportés, je le dirai dès le début, comme ça tout le monde est prévenu. Et je pense sincèrement que dans ce genre de situation, et ça c'est l'avantage de mon business model, c'est que ça poserait pas trop de problèmes parce que moi les gens achètent avant tout un cours et ça c'est en ligne. Donc j'ai pas besoin d'être là, c'est pas comme si je faisais de la prestation de service ou du coaching en one-to-one où vraiment les gens payent pour passer du temps avec moi. Donc voilà, ça c'est l'avantage. Est-ce que je l'expliquerai à l'audience ? Voilà, ça je pense que c'est un petit peu du cas par cas en fonction de la situation. Pour moi je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc je pense que si c'est quelque chose qui dure longtemps, je l'expliquerai parce que ben, forcément je serai moins sur les réseaux. Et puis ben voilà, j'essaierai en fonction de mon énergie de continuer à créer du nouveau contenu si j'ai la force, l'envie, l'énergie. Mais voilà, mais clairement je me rabattrai sur mes offres, sur mes tunnels de vente, et ça c'est l'avantage d'avoir vraiment des offres digitales qui peuvent continuer à être vendues sans qu'on soit là. Et ça c'est vraiment un des gros avantages de mon business model, quoi. Je me rends compte que si même je veux moi être off entier pendant 6 mois, et pas pour des raisons de maladie, mais tout simplement peut-être que j'ai envie d'être en vacances pendant 6 mois, ben ça peut continuer de tourner. Donc voilà ce que je ferai, et je pense que c'est vraiment une question qui est très intéressante au final à se poser, parce que ça permet de voir effectivement si ce qu'on crée peut durer et amener quelque chose voilà pendant plusieurs mois sans qu'on doive être là. C'est pour moi quelque chose qui est hyper hyper important. Donc voilà pour toutes vos différentes questions, les différentes situations, qu'est-ce que je ferais si. J'espère que ça vous a plu. On a brassé plein de choses différentes. On a vu plein de choses hyper intéressantes. Je remercie toutes les personnes qui avaient participé pour toutes vos suggestions bien différentes. Ça a permis de parler de plein de choses, de faire des bonnes piqûres de rappel également. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. N'hésitez pas à laisser également un commentaire sur Apple Podcasts. Vous n'avez pas idée comme ça peut aider le podcast. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Salut !